Les rendez-vous de l'information.
Jean-Joseph Perronne.
Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Madame Josette Elahi, historienne, diplômée d'Hébreu, d'araméen, d'acadien, a enseigné aux universités de Beyrouth et de Bagdad, avant de poursuivre ses recherches à Paris, au Collège de France. Spécialiste du Moyen-Orient antique, chevalier de la Légion d'honneur pour ses travaux sur la Phénicie, elle a en outre effectué en compagnie de notre ami Jean-Pierre Bareille des fouilles au Luc de Saint-Girons. Ils ont mis à jour des indices archéologiques fiables qui sont devenus des références. Mais nous sommes là ce soir, surtout, pour parler du dernier livre de Josette Elahi qui s'appelle « L'Empire babylonien, entre haine et fascination ». Josette Elahi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Joseph Perronne, c'est toujours un plaisir de revenir à Radio Couseran. Comme je suis originaire de Bordeaux-sur-Lèze, j'ai l'impression d'être ici chez moi.
Mais vous êtes chez vous, tout à fait, et les portes de Radio Couseran vous sont grandes ouvertes de toute façon, vous
le savez. Merci beaucoup.
Il suffit d'appeler ou voilà, de nous contacter. Donc allez-y. Donc vous êtes originaire de Bordeaux-sur-Lèze, c'est une contrée du Haut-Couseran qui vous a beaucoup marqué, et aussi qui est peut-être à l'origine de votre vocation d'archéologue. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement nous parler de cet état de fait ?
Voilà, vous avez raison.
Vous avez baigné depuis votre enfance dans le monde gallo-romain, si l'on
voilà,
peut employer
ça.
Cette image.
Alors, c'était une vallée qui était occupée par les Romains. Et comme vous l'avez dit avec Jean-Pierre Bareille, on avait fouillé ce qui s'appelait le Luc à Saint-Girons, où se trouvait l'ancienne piscine. Le Luc, ça venait de Lucus, le bois sacré chez les Romains. Et on a trouvé un temple, un sanctuaire gallo-romain, qui était bâti entre les deux fleuves, la confluence des fleuves. Et on a trouvé en particulier une inscription sur une feuille d'or. C'était un marchand qui venait de l'Espagne du Sud. Il était venu à ce sanctuaire et il avait fait une offrande. Donc on a découvert énormément de choses qu'on a publiées sur le passé gallo-romain de la vallée du Couseran.
Oui, ça a été publié dans la revue Aquitania, découverte gallo-romaine du Luc de Saint-Girons. Et ça a été publié en 1992. Vous voyez que je me suis renseigné.
C'est ça, oui.
Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'amitié aussi pour Jean-Pierre Bareille. C'est quelqu'un qui est très érudit, très modeste et que j'aime beaucoup. Donc, ça m'a fait plaisir de l'évoquer ce soir. Voilà. Alors, mais disons que cette vallée du Lesse est quand même très riche aussi en vestiges gallo-romains.
Elle est riche en vestiges et tout n'a pas encore été exploré. Alors, il y a la fameuse tour qui c'est Angomère, non, c'est les
Moulis.
Qui marque. On ne sait pas très bien ce que c'était, mais c'était probablement une borne de propriété entre plusieurs propriétés romaines. On a aussi la fameuse carrière d'Aubert, où le marbre était déjà exploité par les Romains. Et il y avait sans doute à cet endroit une villa gallo-romaine. Parce que là aussi, ils ont trouvé des pièces romaines en or que j'ai publiées dans le bulletin de la Société française de numismatique. Donc du romain, il y en a un petit peu partout dans cette vallée. Et ils allaient exploiter, évidemment, en haut de la vallée, les carrières qui sont les carrières de après Saint-Ain, les carrières de plomb, etc. La carrière qui tue, la dernière qui était tout à fait.
Oui,
le
Maille de Bullard.
La tueuse d'homme.
Maille de Bullard.
Voilà, c'est ça.
Et j'ai appris récemment qu'on ne dit pas la Maille de Bullard, mais que l'on dit le Maille de Bullard.
D'accord.
Voilà. Donc pour les puristes de la langue gasconne. Bon. Voilà. Mais nous sommes venus aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, qui s'appelle « L'Empire babylonien entre haine et fascination », et qui est la première de couverture, est vraiment un petit chef-d'œuvre, pictural, comment on peut dire, parce qu'il a aussi une histoire, c'est que la couverture a été réalisée par votre fils.
Oui, par mon fils Laurent, mais il s'est inspiré du décor des palais babyloniens.
Oui.
C'est magnifique, les décors des palais, c'était des briques vernissées en couleur, donc il y avait du turquoise, du bleu, du jaune, du blanc. C'était absolument magnifique parce que les palais étaient recouverts par ces briques émaillées et Babylone, c'était une cité fabuleuse, bien sûr.
Oui, elle était surnommée, c'est la Babylone magnifique. Je cherche le terme. Voilà, Babylone la magnifique, c'est ça, on l'appelait Babylone la magnifique. Est-ce que c'était un véritable le terme qui a été adapté ou ça a été un terme qui a été rapporté plus tard?
Rapporté plus tard, parce que Babylone, ça veut dire la porte des dieux.
Oui.
Dans le langage local. Alors, où est-ce que ça se trouve? Il faut qu'on situe un petit peu.
Ah oui, alors vous allez, oui, si vous voulez bien situer Babylone et surtout aussi parler du cadre géographique qui est marqué par la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Cette région aussi, ça a été la région des Assyriens. Il y a eu tout un tas de peuplades qui ont participé à l'instabilité de cette région. Alors, si vous voulez bien expliquer le cadre géographique et ensuite les principales tribus qui ont provoqué des tensions. Voilà, donc je vous écoute.
Oui, alors d'abord on est 2600 ans en arrière, il faut remonter, il faut aller au Proche-Orient, en Irak.
Alors 2600 ans avant ou
avant aujourd'hui, 2600 ans, il faut faire un saut de 2600 ans en arrière.
Voilà.
Voilà, et on va donc au Proche-Orient. Dans le pays qui s'appelle l'Irak, un pays très chaud aujourd'hui, mais qui était déjà très chaud dans l'Antiquité, parce qu'il y avait pas mal de tensions et de guerres aussi. Hein. On n'a pas inventé grand-chose pour les guerres. Alors, Babylone se trouve à 90 kilomètres au sud de Bagdad, qui est la capitale de l'Irak. Alors, vous avez parlé de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une riche plaine fertile qui se trouve entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et pour d'où ça vient Mésopotamie, c'était les Grecs qui avaient donné ce nom, ça veut dire entre les deux fleuves. Et si on regarde la Bible, le livre de la Genèse, c'est là qu'ils situaient le jardin d'Éden et le paradis terrestre.
Ça,
c'est
et la tour de Babel aussi.
La tour de Babel, non, je veux dire toute la Mésopotamie, hein, c'était le jardin d'Éden.
Ah oui, d'accord.
Et
oui.
Ensuite, la tour de Babel.
Il y a eu la tour de Babel qui a été qui a été concernée aussi.
Voilà, mais la tour de Babel de la Bible a réellement existé.
Oui.
Mais pas tout à fait sous la même forme. Alors, je veux peut-être en dire deux mots.
Oui, allez-y, vous êtes là pour
oui,
ça.
Oui, alors bon, Babylone, c'était une ville extraordinaire, mais énorme pour l'Antiquité. 1000 hectares, c'était la plus grande mégapole de l'Antiquité. Et il y avait une richesse extraordinaire. Et il y avait 143 temples dans Babylone, et plus des hôtels à tous les coins de rue. Alors, la tour de Babel, dans la Bible, ce sont des hommes qui voulaient construire cette tour de Babel pour arriver jusqu'aux cieux. Ils parlaient la même langue. Mais Yahvé n'a pas accepté. Et il a mélangé leurs langues, donc ils ne pouvaient plus se comprendre pour construire, donc ils n'ont pas pu construire la tour de Babel. Ça, c'est ce que raconte la Bible. Mais en réalité, qu'est-ce que c'était? C'était une tour qui était un temple, mais un temple de Marduk. Là, parce qu'on est en plein polythéisme, il y a beaucoup de dieux à cette époque, et le dieu de Babylone, le grand dieu, c'était Marduk. Donc on lui avait construit un temple qui était une tour. Et cette tour mesurait 90 mètres de haut.
Ah oui, quand même, pour l'époque. Oui,
oui, ça dominait la plaine, donc c'était tout plat. Ce qui fait que c'était un lieu d'observation magnifique pour les astronomes. Ils avaient installé, ils étaient très modernes hein, déjà, ils avaient installé un laboratoire au bout du temple de Marduk.
Déjà.
Voilà, les astronomes, l'astronomie babylonienne est très, très célèbre. Donc ils observaient les étoiles depuis ce point d'observation.
Oui. Alors, nous allons parler donc ce soir de Babylone, mais Babylone, quand même, c'est la Mésopotamie. Babylone, c'est quand même une notion qui est étrangère à notre civilisation, qui est plutôt marquée par le judéo-christianisme. Et c'est vrai qu'il y a des termes aussi, Nabucodonosor, qui peuvent heurter, si vous voulez, ceux qui ne sont pas vraiment initiés à cette civilisation. Alors, comment faire pour faire passer au grand public tous ces termes qui sont compliqués? Voilà.
Oui, alors, et bon, évidemment, nous, si on connaît les Grecs, la civilisation grecque, la civilisation romaine, parce qu'ils ont occupé la Gaule, ce sont des civilisations qu'on connaît très bien, mais c'est vrai que les civilisations comme la civilisation babylonienne et assyrienne, on les connaît très peu, on les a découvertes récemment, et justement, par mes livres, j'essaie de les faire découvrir, et c'est compliqué, il y a des noms un petit peu barbares, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, on connaît davantage le nom de César que le nom de Nabucodonosor.
Oui, c'est tout à fait, donc c'est peut-être un peu dépaysant pour ceux qui ne sont pas initiés, donc ils n'ont que de vagues souvenirs scolaires.
Mais je vais vous dire quand même, si vous aimez l'alcool et le champagne, la bouteille de 15 litres de champagne s'appelle Nabucodonosor.
Ah oui, je ne savais pas, vous me l'apprenez.
Oui, alors le nom est très à la mode. Hein. Mmh. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'endroits, de cafés, etc., qui s'appellent Nabucodonosor. Donc le nom, si vous voulez, est resté. C'est un roi qui est resté célèbre depuis l'Antiquité.
Il est resté célèbre parce que c'était petit, si vous me permettez l'expression, satrape, qui avait un genre de vie particulier quand même, avec une somme. Il avait un harem, il avait des femmes, des eunuques, donc c'était quand même quelqu'un qui a mené une vie quand même, un certain mode de vie qui à l'heure actuelle pourrait être critiqué. Voilà.
Oui, alors, à cette époque, c'est vrai que les rois assyriens et babyloniens avaient des harems. C'était la mode à l'époque. C'était aussi des rois qui étaient des conquérants. C'est-à-dire, ils ont bâti des empires. Ces rois babyloniens, il a bâti un empire. Donc, il y a eu des massacres de population, des destructions de villes, comme tous les conquérants. Hein. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Et ils ont fait aussi des déportations des populations vaincues. Mais ça aussi, ça se faisait dans l'Antiquité. C'est pas seulement les Babyloniens qui ont déporté les populations, les Égyptiens l'ont fait aussi. Et il s'agissait de bâtir un empire le plus riche possible, le plus grand possible, pour la gloire de Babylone.
Et là, donc, les esclaves, en quelque sorte, ça faisait partie du paysage, si vous me permettez cette expression.
Voilà, c'est
alors,
ça.
Alors, quel était, puisqu'on parle de ça, quel était le statut des esclaves?
Alors, les esclaves, il y avait d'abord les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, on s'en servait pour faire des travaux divers. Il y avait beaucoup moins d'esclaves que chez les Grecs, par exemple. Mais l'objectif des rois babyloniens, c'est, comme je vous l'ai dit, de faire de Babylone la ville la plus extraordinaire de l'Antiquité. Donc il fallait construire des monuments magnifiques, des palais. Il y avait 3 palais, il y avait 143 temples. Et pour cela, il fallait de la main-d'œuvre, il fallait de l'argent, il fallait de la richesse. C'est pour ça qu'ils ont fait des guerres et qu'ils ont ramené des tribus, ils ont pillé tous les temples, etc. Et ils ont ramené de la main-d'œuvre. Alors cette main-d'œuvre était traitée évidemment un petit peu comme des esclaves, sauf ceux qui avaient une spécialité. Alors ceux-là, ils avaient une bonne place.
Hein, et ils avaient même des esclaves.
Oui, ils avaient eux-mêmes des esclaves.
C'est
voilà.
Ce que j'ai appris.
Voilà, c'est ça. Non, c'est-à-dire on reconnaissait la compétence de ces prisonniers de guerre. Donc, ou bien ils étaient vraiment au bas de l'échelle, ou bien ils occupaient un poste très important et ils avaient eux-mêmes leurs esclaves. C'était un système un peu particulier, mais c'était répandu. Toute l'Antiquité était comme ça.
Oui. Nous allons parler, puisque nous avons abordé le problème de cet état guerrier, de ce contexte guerrier, nous allons parler quand même de ce qui est à l'origine de notre civilisation, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, la destruction du temple de Salomon, et la déportation aussi des Hébreux à Babylone. Donc c'est quand même un élément qui est très important pour nous qui appartenons à la civilisation judéo-chrétienne. Donc c'est quelque chose que l'on apprend dès le plus jeune âge, pour ceux qui font du catéchisme encore, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais voilà, donc est-ce que vous pourriez nous parler de cet état de fait, et après on va continuer.
Voilà, alors moi je vais vous parler en historienne. Ça ne sera pas tout à fait le même son de cloche.
Hein. C'est pas le même son de cloche, mais quand même c'est très important que l'on ait votre son cloche, comme vous dites, parce que c'est ce qui est diffusé partout.
Hein. Oui, voilà. Mais c'est pas parce que c'est diffusé partout que c'est la vérité historique. Hein.
Donc vous êtes donc là moi, pour faire le point.
Voilà, je m'appuie moi sur les inscriptions, et vous savez que les inscriptions assyriennes, il y en a énormément, il y en a plus d'un million d'inscriptions. Alors, cette histoire de Jérusalem. Bon, les rois assyriens voulaient faire un empire qui soit solide, donc ils n'acceptaient pas que leurs vassaux se révoltent. Donc chaque fois qu'il y avait un vassau qui se révoltait, ils allaient sur place, ils capturaient la ville, ils tuaient la population, ils en déportaient une partie. Bon, ça c'était l'idéologie babylonienne. Ils faisaient ça pour tous les vassaux de la même façon. Mais la différence, c'est que pour les Judéens, donc les habitants de Jérusalem, on a la Bible. Et la Bible décrit en détail... Bon, c'est pas l'histoire, mais enfin...
C'est une interprétation.
Voilà. Ce qui s'est passé. Donc on sait en partie ce qui s'est passé pour les Judéens. Alors qu'on n'a pas de source pour les autres vassaux. Mais on en a quand même un petit peu, par exemple, pour les Tyriens. Les Tyriens, c'était les habitants de la cité phénicienne de Tyr, au Liban.
Oui, oui, d'accord.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Exactement la même chose, c'est-à-dire que le roi de Tyr s'est révolté, comme le roi de Jérusalem. Alors, le roi babylonien est arrivé avec son armée, donc il a pris les deux villes, hein, la ville de Jérusalem, la ville de Tyr, il a détruit les temples, il a détruit la ville, et il a déporté une partie de la population à Babylone. Bon. Alors, en Babylonie, les gens qui ont été déportés, ils se souvenaient de leur ville d'origine. Donc ils ont redonné le nom, on a en Babylonie une ville de Jérusalem et une ville de Tyr. Donc c'est tout à fait parallèle. Et ensuite, il y a eu une libération du roi de Tyr et du roi de Jérusalem. Bon, et pour punir ces deux États qui s'étaient révoltés, le roi babylonien a décidé de détruire la royauté de Tyr. Et il a transformé le royaume de Juda en province babylonienne. Donc là, on a des informations, on sait que c'est tout à fait parallèle. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans le traitement. Il n'y a rien de particulier, c'est inacceptable hein, dans les deux cas. Mais il n'y a rien de particulier pour...
Dans le contexte actuel, c'est inacceptable, ouais. Bon, avec nos paradigmes actuels. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas...
Oui, mais je ne sais pas si l'homme est devenu plus... quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas...
Surtout dans cette région.
Voilà. Surtout dans cette région, voilà. Mais bon, ça, je crois que l'homme n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il s'est bâti une légende dans l'Antiquité autour de... C'est la Bible, en particulier le prophète Daniel, qui a raconté tout cela. Cette légende s'est propagée sur des faits réels au départ. Mais on a la Bible qui le raconte jusqu'à aujourd'hui.
Et ça a été brodé, si vous voulez. Même,
Les légendes... Enfin, ce qui est fait historique au départ, c'est ensuite déformé par la légende.
Par la légende et les différentes interprétations, différentes copies qui ont eu lieu aussi.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est un peu différent de ce qu'on dit de la... du domaine.
Pardon. Et vous avez parlé, vous avez parlé de cette histoire, de ces batailles, mais je pense qu'on a eu peut-être quelques notions de cette histoire par des historiens de l'époque, comme Hérodote, Diogène et Strabon.
Donc, oui.
Alors, quel a été leur rôle à ces historiens?
Hérodote, c'est le grand historien grec connu. Lui, c'est très intéressant parce qu'il a visité Babylone. Alors, 100 ans, à peu près quelques 100 ans plus tard. Mais Babylone était intacte parce que les Perses, quand ils ont pris l'Empire babylonien, ils n'ont pas détruit Babylone. Donc il a vu Babylone et il a été vraiment fasciné parce qu'il a vu une ville extraordinaire. Les cités grecques, c'était des toutes petites cités. Il a vu une mégapole de 1000 hectares entourée par un triple rempart. Et en plus, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait encore un autre mur tout autour qu'on pouvait inonder d'eau en cas d'attaque ennemie. C'est-à-dire qu'ils mettaient de l'eau dans ce périmètre pour que les armées ennemies ne puissent pas s'approcher de Babylone.
Et c'est pour ça que Cyrus a déjoué, je pense. Donc,
voilà, il a fait une ruse. Donc,
là, on anticipe, voilà. Mais on verra après qu'avec la chute de Babylone.
D'accord, donc Hérodote a été vraiment fasciné par cette ville. Alors, il décrit tout, la tour de Babel, les palais. Il y avait trois palais. Il y avait en particulier un temple magnifique... Le temple donc de la tour de Babel, qui est un temple de Marduk, et il y avait un autre temple de Marduk, qui était aussi magnifique. Il y avait une bibliothèque extraordinaire, une bibliothèque encyclopédique, l'origine hein, de nos bibliothèques actuelles. Donc Hérodote est vraiment fasciné par tout ce qu'il a vu à Babylone, ce qui a créé une légende, si vous voulez, positive pour la Babylonie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Nabucodonosor a une légende positive.
C'est le seul peut-être qui est aussi connu.
Oui, là. Alors, il y a la légende noire, mais il y a la légende aussi rose, disons. Oui. Et c'est utilisé, par exemple, il est partout, Nabucodonosor. Les bandes dessinées, il y a Nabucodinosor. Il y a aussi une série Matrix. Le vaisseau spatial s'appelle Nabucodonosor. Je vous ai cité la bouteille de champagne de oui. Donc il a une popularité, Nabucodonosor. Hein,
Et il donne le nom à de nombreux bars. J'ai vu à Toulouse, il y en avait un à une
voilà,
époque.
Voilà, c'est ça.
Nous retrouverons la suite de cet entretien, des rendez-vous d'information, mercredi prochain à 20h, Josette Elaïe et Jean-Joseph Perron.